Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es. Une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ilana Citurel. Colette Lévinaire, bonjour.
Bonjour Ilana.
Bienvenue à Dis-moi qui tu cites, c'est un grand plaisir de vous accueillir.
Ben moi aussi.
Alors vous êtes, à mon sens, l'une des figures de ce qu'on pourrait appeler le woman empowerment, le pouvoir des femmes, le pouvoir montant des femmes, une des femmes les plus influentes dans le monde des affaires, puisque vous êtes membre de plusieurs conseils d'administration de sociétés cotées, de sociétés importantes en France et aussi à l'étranger. Vous me confiez d'ailleurs que vous me confiez en rentrant en studio que vous revenez d'Inde parce que vous faites partie du conseil d'administration d'une grande société indienne.
Absolument, je suis au conseil d'administration de Crompton Greaves, qui est une société qui fait du matériel électrique. Du matériel grand public, des lampes, des pompes, des chauffe-eau, mais surtout du matériel de réseau, donc de très gros matériel électrique, des transformateurs, des disjoncteurs.
Alors, on va revenir dans un instant, justement, sur la place des femmes dans le monde des affaires, parce que c'est aussi, c'est encore un combat aujourd'hui. Je voudrais revenir sur votre parcours, Colette Lévinaire. Donc, vous faites partie de ces scientifiques de très haut niveau qui ont décidé de se tourner vers le monde des affaires sans abandonner leur expertise, puisque vous êtes aussi l'une des plus grandes spécialistes au plan national sur les questions liées à l'énergie. Alors, vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégé de physique, docteur en sciences physiques, et vous avez commencé une carrière d'enseignante à l'Université de Paris, et vous tenez à cette première période, même si elle n'a pas duré très longtemps, parce qu'elle vous a...
Elle a compté ? Oui. Et puis j'ai commencé en décembre 68, et je peux dire que c'était une période extrêmement intéressante du point de vue de la relation avec les élèves.
Alors on va voir, et les citations que vous avez choisies vont nous ramener à l'éducation, à la pédagogie, à la transmission. C'est un des thèmes qui vous importe, et aussi j'imagine dans le monde de l'entreprise, parce qu'on ne cesse finalement de transmettre.
Je pense qu'un dirigeant dans le monde de l'entreprise est aussi un pédagogue vis-à-vis de ses équipes. Et en fait aujourd'hui on ne commande pas, on dirige, on manage. Donc il faut convaincre ses équipes, il faut les entraîner avec soi.
Alors, je le disais, vous intervenez dans des conseils d'administration de sociétés qui comptent, mais vous avez, au cours de votre parcours, quand vous avez rejoint donc la vie des affaires, été la première femme directeur à EDF. Ce n'est pas rien, on en dira peut-être quelques mots. Vous avez aussi été présidente, directeur général d'une filiale du groupe Areva, une société d'ingénierie et de services employant 9000 personnes très qualifiées, ingénieurs et cadres, spécialisées notamment dans le nucléaire. Et puis, vous avez rejoint enfin Capgemini, où vous avez été notamment Madame Énergie, la grande experte énergie pour ce groupe, et vous continuez à être consultée sur ces sujets-là.
Absolument, je continue à travailler pour eux maintenant, puisque j'ai pris ma retraite officiellement, mais je continue à travailler pour Capgemini sur les sujets de l'énergie.
Alors, revenons à la question des femmes dans l'entreprise. Vous avez d'ailleurs créé une association qui s'appelle Women in Nuclear, les femmes dans le nucléaire. Où en est-on aujourd'hui en France ? On va dans la bonne direction.
Oui, d'abord un mot sur WIN, Women in Nuclear. On l'a créé quand je présidais la European Nuclear Society, parce qu'en fait, les femmes dans les pays nordiques expliquaient mieux le nucléaire que les hommes. Et comme il y avait déjà beaucoup de femmes politiques dans ces pays-là, le courant, j'allais dire, passait bien. Mais le succès de cette association, parce qu'elle existe toujours et elle s'est beaucoup développée, ça a été le fait que les femmes puissent échanger leurs expériences entre elles, surtout dans le milieu nucléaire, où il y a peu de femmes quand même, et où elles se sentent très isolées. Donc, je dirais que les réseaux de femmes, parce qu'on parle beaucoup de réseaux de femmes, c'est important pour qu'il y ait un coaching des femmes les unes par rapport aux autres. Ça peut aussi être des hommes qui font du coaching, et des échanges d'expériences. Parce que dans le monde des entreprises, les femmes n'ont pas encore le rôle qu'elles pourraient avoir ou qu'elles devraient avoir. Si vous regardez les pourcentages de femmes dans les comités de direction des grandes entreprises, vous êtes entre 5 et 10%. Donc on est très très loin des 50%. Aujourd'hui, la loi impose d'avoir 40% de femmes en 2017 dans les conseils d'administration. Donc ce mouvement est en train de se faire. Et je peux vous dire que le fait d'avoir des femmes dans les conseils d'administration, disons, augmente plutôt la qualité des conseils que l'inverse.
Et c'est le bon moyen, le quota ?
Alors, c'est toujours discuté, mais moi, je pense que dans les conseils d'administration, après beaucoup de réflexions, c'est une bonne mesure. parce que les choses n'avancent que très, très, très doucement autrement. Donc, si vous ne donnez pas une impulsion, on est sur un rythme qui est quand même pas satisfaisant.
Alors, vous avez eu, Colette Lévinaire, je le rappelais, un rôle de pionnière, hein, première directeur et directrice, allons-y, au sein du mot d'EDF. Comment est-ce que vous l'avez vécu personnellement? Est-ce que ça a été une lutte? Est-ce que ça a été difficile? Ce parcours
Ça n'a pas été difficile. Je pense que ça n'a pas été difficile dans le sens de la compétence, de comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Dans le sens du positionnement, c'est parfois un peu plus difficile. Les gens ne vous reconnaissent pas d'emblée que dans votre rôle. C'est toujours la difficulté que les femmes ont. Mais je dirais qu'à l'inverse, les gens à EDF, ça fait longtemps que j'étais directrice à EDF, se rappellent encore de moi. C'est-à-dire que vous avez une image... du fait que vous êtes la première dans un rôle qui est positive et qui est forte. Donc voilà, donc je crois qu'il y a plus de difficultés pour les femmes à franchir les barrières hiérarchiques dans les grosses entreprises. Elles-mêmes, d'ailleurs, le frein est parfois chez les femmes, parce qu'elles-mêmes, elles sont inquiètes à juste titre d'avoir un bon équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc, quand elles sont dans un poste qui leur plaît, elles n'ont pas forcément envie de courir après des galons, ce qui est quand même très différent de leurs collègues masculins, qui, eux, pour qui les galons, c'est en général très important. Donc voilà, il y a le double phénomène. Elles s'expriment peut-être pas assez, elles ne sont pas assez reconnues. On ne leur fait pas immédiatement confiance, comme on ferait immédiatement confiance à un homme.
Et puis vous parlez aussi souvent, Colette Lévinaire, d'une forme d'autocensure, c'est-à-dire si je ne suis pas excellente parmi les excellentes, j'y vais pas.
Oui, oui. Quand vous observez dans une réunion de travail, la prise de parole des femmes par rapport à celle des hommes, les femmes prennent beaucoup moins la parole. Elles veulent prendre la parole de manière, en disant des choses justes, et d'ailleurs en général c'est le cas, c'est pas vrai des hommes. Donc elles se comparent à un modèle d'excellence, alors qu'elle devrait se comparer, je dirais, à un modèle normal. Voilà, elle se compare à leurs collègues et pas à celui qui serait totalement le meilleur dans cette fonction.
Alors, un mot de votre engagement d'ailleurs en Israël, mais on va venir maintenant aux belles citations que vous nous proposez, Colette Lévinaire. Un mot de votre engagement pour un très beau projet qui d'ailleurs dépend de l'Alliance israélite universelle. Oui. Vous y êtes d'ailleurs très attachée à cette institution et son versant israélien qui s'appelle Kol Israël Haverim. Un très beau projet qui s'appelle Sotkot, percer le plafond de verre, qui fait un travail dans des quartiers populaires pour engager les filles à poursuivre des études scientifiques.
Absolument. Et ça marche. Il faut dire que ces filles...
Vous êtes sponsor et vous avez pensé ce projet et vous l'avez aussi sponsorisé généreusement.
Mais faut dire aussi que dans ces quartiers... Mais ce n'est pas seulement vrai dans ces quartiers. C'est un peu vrai en général. Les femmes ont un rôle modèle qui est très, très loin d'un rôle modèle scientifique. Elles voient autour d'elles leur mère, leur tante, etc., qui font quand même des métiers plutôt de bas niveau. Elles pensent qu'elles sont automatiquement faire la même chose. Donc, il faut leur montrer que c'est possible en leur donnant des exemples, des rôles modèles. Ça, c'est bien. Et puis, pour les élèves qui sont dans des classes un peu plus élevées, on les amène dans des laboratoires. L'Institut Weizmann, par exemple, accepte de recevoir ses élèves, de leur faire faire des projets. Et quand elles vous expliquent leurs projets, elles sont totalement enthousiastes. Donc ça marche en fait, donc c'est positif.
Demain, Sotkot en France, oui, il y a un combat à mener.
Ah oui, je pense que oui.
Alors à bonne entendeur, salut. Oui. On va se mettre au travail, on va se retrousser les manches. Colette Lévinaire, on va venir maintenant aux citations que vous nous proposez. Et la première, je vais vous laisser la lire pour les auditeurs.
D'accord.
Une citation de Galilée.
Voilà, et pourtant elle tourne. Et donc comme il était italien, il a dit « et pour et si mauvais ». Donc c'est Galilée, après son procès par l'Inquisition, où il a accepté d'abjurer sa théorie que la Terre tournait autour du Soleil, alors que l'Inquisition avait une théorie que la Terre était immobile et au centre du monde. Il a été donc obligé d'abjurer sa théorie et quand même, il a dit, et quand même elle tourne, et quand même la Terre tourne. J'ai pris cette citation pour illustrer le fait que la science, je dirais, a raison contre les obscurantismes. Et l'Inquisition était un obscurantisme. Je vais donner un autre exemple, peut-être plus récent. C'est la période nazie en Allemagne, le Troisième Reich. Il faut savoir que les Allemands avaient d'excellents scientifiques. Mais Hitler a imposé une doctrine de la science allemande, de la physique allemande, de la mathématique allemande, de la chimie allemande, qui était une doctrine qui disait au fond la science doit servir au quotidien, doit être simple et nationale et pas internationale, alors que la science par définition est internationale. Et bien sûr, il s'en prenait notamment à Einstein et à la théorie de la relativité, qui était une théorie bannie. Beaucoup de scientifiques juifs ont quitté, pas seulement des juifs d'ailleurs, ont quitté l'Allemagne. Donc on a appauvri finalement la compétence scientifique. On a imposé donc des règles quand même assez stupides. Les scientifiques comme Heisenberg, qui était un très grand physicien, qui a fait un jour une conférence sur la théorie de la relativité d'Einstein, s'est fait traîner dans la boue dans le journal des SS, traité de juif blanc et voué à l'extermination. Bon, il a réussi à survivre. Et donc, ils ont beaucoup appauvri la science allemande, et ils l'ont reconnu en 1942 lors d'une conférence en disant qu'ils avaient eu tort de laisser partir ces scientifiques. Mais en attendant, les Américains et les Anglais avaient récupéré pas mal de ces scientifiques. Les Américains avaient lancé le projet Manhattan, qui était un projet de faire une bombe nucléaire. Les Allemands aussi avaient un projet de bombe nucléaire, mais à cause de tout cet environnement et puis d'autres choses, ils ont été très très en retard par rapport aux Américains. Donc les Américains ont eu la bombe, Hiroshima et Nagasaki, qui a terminé la guerre. Bon, rétrospectivement, c'est une très bonne chose que les Allemands n'aient pas eu la bombe nucléaire. Mais ça montre que, en fait, cet obscurantisme, ce côté doctrinaire qui veut museler la science, eh bien, ça conduit quand même à des situations extrêmement mauvaises, quoi.
Alors même si, évidemment, pas faire de comparaison avec le nazisme, mais aujourd'hui en France, il vous semble qu'il y a un esprit assez libre pour la science et pour la recherche, ou il y a aussi des crispations d'ordre idéologique de temps en temps ?
Il peut y avoir des crispations, mais en général, c'est assez libre. Il y a un peu de crispation sur le changement climatique. On a l'impression que c'est à la fois les scientifiques qui adhèrent, mais la contestation n'est pas, comme Claude Allègre, qui est plutôt contestataire, n'est pas toujours facile. Mais enfin, je crois qu'au total, ils ont raison.
Petite parenthèse quand même à l'experte de l'énergie que vous êtes. Quelle est votre position par rapport à ça ?
Non, je pense que c'est juste. Je trouve que parfois, le GIEC, qui est la communauté scientifique, pourrait avoir une attitude plus ouverte par rapport aux gens qui ont d'autres idées. Hein, voilà. Je dirais ça.
Il y a un dogme qui est en train de s'installer.
Il y a un peu
tout
un
même.
Dogme sur ce sujet.
Deuxième citation, une citation de La Fontaine. Alors je vais la lire et puis vous la commenterez, Colette Lévinaire. Travaillez et prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
Oui, donc ça c'est la citation, c'est le laboureur et ses enfants. Donc c'est un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Donc il leur dit en fait de travailler, de labourer le champ, qui est un trésor caché. Bien sûr, il n'y a pas de trésor caché, mais le fait de labourer fait que les récoltes sont très bonnes. C'est une citation que mon père nous citait toujours. Et c'est vrai que dans ma vie, j'aime travailler. Voilà. C'est peut-être pas correct de dire qu'on aime travailler, mais moi, j'aime travailler parce que j'estime qu'on apprend des choses, qu'on s'ouvre l'esprit, qu'on rencontre des gens intéressants. Voilà. Et donc, je crois que le travail, et j'ai essayé d'inculquer ça à mes enfants, est une valeur forte pour sa vie, pour sa carrière. Voilà.
Troisième citation, Colette Lévinaire, le monde repose sur trois bases, l'étude, le travail et la charité.
Oui, c'est une citation de Simon le Juste, Hatzatik, qui était l'un des sages d'Israël au IIIe siècle avant notre ère. J'ai pris cette citation pour l'aspect charité, parce que je pense qu'il faut partager, soit financièrement quand on le peut, soit autrement quand on ne peut pas le faire financièrement. Je pense que dans les lignes de conduite, c'est quelque chose d'important dans la vie. Voilà.
Donc il y a trois branches. Hein, donc l'étude, alors au sens de l'étude de la Torah, le travail qui d'ailleurs pouvait aussi être au sens strict, était plutôt le travail, l'avoda au sens du culte, oui. Mais on l'a souvent interprété dans un sens plus large. Et puis de la charité.
Absolument. Et le travail, on en a parlé. L'étude, dans ma vie, j'ai plutôt été, j'allais dire, entre guillemets, une intellectuelle. Hein, donc l'étude d'apprendre, comme je disais tout à l'heure, me semble très, très, très important. Je ne suis pas une grande spécialiste de la Torah, pour dire les choses clairement, mais je pense que le judaïsme, avec l'étude de la Torah, avec les réflexions sur la Torah, avec, j'allais dire, toutes les discussions qu'il peut y avoir autour de la Torah, et tout de même en termes d'exercice intellectuel extrêmement intéressant et qui crée une ouverture, parce que le judaïsme a comme ça pu s'adapter finalement à son époque et n'est pas resté enfermé, enfin en général, le judaïsme n'est pas resté enfermé dans des règles qui aujourd'hui seraient totalement inapplicables. Voilà.
Et effectivement, cet art de la polémique et au sens le plus noble d'ailleurs, hein, de la discussion est au cœur du judaïsme, même si à un moment donné, il faut trancher aussi.
Oui, absolument. Mais la discussion me semble être extrêmement importante et c'est une source d'ouverture d'esprit. Ce n'est pas totalement par hasard que vous retrouvez beaucoup de juifs dans les intellectuels en général, que ce soit les littéraires, les philosophes, les scientifiques, etc. Je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard. Ça crée une certaine forme d'esprit, hein.
Alors, je partagerai avec vous un ouvrage récent qui a été publié au Princeton University Press par deux économistes qui ont prouvé que ce qui fait la spécificité du peuple juif, c'est d'un point de vue vraiment économique, un engagement budgétaire extrêmement marqué pour l'éducation qui a toujours été beaucoup plus étendu que chez les autres. Et en particulier, quand le peuple juif était encore un peuple essentiellement agricole, mm-hmm. et où pourtant les enfants étaient capables de lire dans la Torah le Shabbat à la synagogue. Mm-hmm. Donc on a quelque part une espèce de fait unique, hein, cet accès en fait à la lecture. Très très ancien.
Oui, et à la lecture directe des textes. Je crois que c'est très important, hein, parce qu'il y a d'autres religions où on ne lit pas les textes en direct. Hein. On lit les commentaires des textes. Et je pense que c'est très important de lire les textes et d'essayer soi-même, à son propre niveau, de les comprendre et de les interpréter. Je pense que c'est très important. Bah, le peuple juif est qualifié souvent de peuple du livre. Hein. Pas tout à fait par hasard.
Alors le troisième élément, la charité, donc la philanthropie, d'ailleurs qui s'appelle en hébreu tzedaka, parce qu'il y a le mot justice dedans, hein, on ne fait que rendre et rééquilibrer finalement une injustice. Hein. Est-ce que vous croyez que dans notre éducation et en France en général, on fait une place suffisante à la philanthropie au sens fort du terme, c'est-à-dire d'un engagement ?
C'est pas sûr. Il y a une place aux engagements en général, plus qu'avant je pense. À la philanthropie, peut-être pas suffisamment. On est beaucoup moins philanthrope. Je ne parle pas des communautés juives seulement. Je parle en général que les Américains. Les Américains ont beaucoup d'encouragements fiscaux à être philanthropes.
Par exemple, commence chez nous, mais...
Ça commence. Et puis, on a un système un peu rigide de ce côté-là. Hein. Les grandes universités américaines sont très souvent financées de partie significative par les anciens. Les alumni, les anciens de l'université qui, quand ils ont gagné de l'argent, financent l'université, retournent à l'université ce qu'ils ont eu en termes de connaissances de l'université. Bon, ils retournent sous forme d'argent, ils l'ont eu sous forme de connaissances, mais c'est l'état d'esprit. Et en France, ça se pratique quand même moins. En Israël, ça se pratique beaucoup.
Et c'est quoi ? C'est l'omniprésence de l'État ?
Disons que les choses ont avancé. Aujourd'hui, les universités ont plus d'espace de liberté qu'avant, peuvent recueillir des fonds privés. Les choses sont en train, et beaucoup d'entre elles d'ailleurs ont créé des fonds pour cela. C'est en train d'avancer. Ce n'est pas encore totalement, je pense, dans la culture, ni des universités, ni des anciens élèves eux-mêmes. Hein, donc...
Quatrième citation que vous nous proposez, Colette Lévinaire. Alors, je vais vous laisser relire cette belle citation dont vous avez vérifié l'authenticité, de Martin Luther King.
Oui, donc c'est Martin Luther King qui répond à un élève, un étudiant d'université lors d'une intervention à Harvard. Et l'étudiant pose une question hostile sur le sionisme et il lui répond « Quand les gens critiquent les sionistes, ils veulent parler des juifs. Votre propos est antisémite. » J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a quand même, il y a eu, aujourd'hui malheureusement, l'antisémitisme en France est ouvert. Quoi. On peut se déclarer antisémite, mais quand même, quand on regarde les années passées, c'était souvent sous couvert d'antisionisme que les antisémites s'exprimaient. Et même les intellectuels, hein, je veux dire. Ça. Et ça veut dire quand même qu'il y a un antisémitisme rampant à travers l'antisionisme. Hein. Et qui fait beaucoup de mal, et qui fait beaucoup de mal. C'est aussi un constat que je partage avec mon mari souvent, c'est comment, après ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, peut-on voir une résurgence de l'antisémitisme ? On ne l'aurait jamais cru, je dirais, il y a même 20 ans, 30 ans. Hein. Et c'est assez triste d'une certaine manière. Il y a des actes antisémites, enfin, c'est pas peine que j'en fasse tout un. Je crois que les communautés juives sont extrêmement sensibles. Il y a des actes racistes en général, hein, pas seulement antisémites. Et ça montre que malgré les médias, malgré la diffusion de l'information, malgré les voyages, les gens voyagent beaucoup plus, etc., cet antisémitisme est resté ancré de manière profonde.
Alors vous le disiez, il y a une époque où effectivement on ne pouvait se permettre d'être antisémite qu'en passant par l'antisionisme, mais ça reste tout de même vrai. Vous avez raison que c'est quasiment plus d'actualité dans la mesure où maintenant, malheureusement, chez certains, heureusement que c'est quand même pas généralisé, il ne faut noircir le tableau, mais il y a disons une expression de l'antisémitisme un petit peu plus libre qui est en train de s'ouvrir et qui est très très inquiétante. Mais il y a toujours aussi voie de l'antisionisme. Et on a quand même le sentiment en France, et je ne sais pas si vous le partagez, que... Israël a quand même, et quelque part les Juifs en tant que personnes attachées à l'État d'Israël, ont perdu la bataille de la communication sur Israël, sur ce pays. Faut-il parler d'Israël autrement ? Le sionisme reste quand même chez des gens même extrêmement bienveillants, attachés à quelque chose de négatif.
Alors je pense qu'Israël...
Ce qui est pour nous une blessure, évidemment.
Oui, bien sûr.
D'abord, votre sentiment ?
Il y a un paradoxe. Quand vous regardez qui sont dans les médias, qui sont les journalistes, il y a beaucoup, beaucoup de journalistes juifs. Donc il y a un espèce de paradoxe. Vous avez raison, Israël pourrait faire un plus d'efforts dans sa communication externe. Et je ne sais pas bien pourquoi ils ne le font pas. J'ai l'impression qu'ils considèrent que ce n'est pas leur priorité et que, de toute façon, leur expérience, et ça c'est vrai, est qu'il faut qu'ils comptent sur eux-mêmes et pas sur les autres. Et que du coup, bon, ce que les autres en pensent, c'est peut-être pas si important que ça. Mais je me trompe peut-être. Mais je suis d'accord avec vous qu'il pourrait y avoir quand même un plus d'efforts de communication.
Et peut-être que la solution, ce serait précisément avec des gens comme vous qui connaissez Israël, je dirais, le côté extrêmement lumineux d'Israël, le côté créatif, innovant, innovant sur le plan social, innovant sur le plan scientifique, de parler d'Israël sous cet angle-là.
Oui. Et moi, je trouve que les gens qui ont été en Israël, quand les gens ont bien voulu aller faire une visite en Israël, parce qu'il y a de la réticence et puis un peu de peur, les gens ont peur qu'il y ait des attentats, etc., ils en reviennent transformés pour la plupart. Et donc, plus on peut amener des gens à visiter Israël, je pense que ça fera changer l'opinion.
Dernière citation, Colette Lévinner, Albert Einstein.
Oui, donc le rôle essentiel du professeur est d'éveiller la joie de travailler et de connaître. C'est tout à fait vrai. Bon, j'étais professeur, maître de conférence à l'université. D'avoir des étudiants motivés qui ont envie d'apprendre, ça change tout. Je veux dire, et passe des étudiants qui veulent avoir leur diplôme en fin d'année. Alors, il faut que l'enseignant fasse des efforts pour ça. Et si on revient encore une fois à l'attraction de la science pour les plus jeunes, la science est aujourd'hui enseignée, en tout cas en école élémentaire, de manière très théorique. Et ça rebute quand même pas mal d'élèves. Et il faut donc qu'il y ait une refondation, une réimagination de la manière dont on enseigne la science. Des exemples, par exemple, c'est ce que Georges Charpak a sponsorisé et qui existe toujours, qui s'appelle « La main à la pâte ». C'est en fait un enseignement de la physique basé sur des faits réels. Les enfants se disent « mais pourquoi le ciel est bleu ?» et on leur explique pourquoi le ciel est bleu. Si on commence par leur expliquer la théorie de la diffraction de la lumière, ça ennuie tout le monde. Donc,
partir de la question, partir
de la
curiosité.
Partir de la question et de l'observation. La physique, c'est une science d'observation.
Où l'on retrouve le Manishtana.
Voilà. Et donc, alors le problème ici, c'est qu'il faut bien sûr que les maîtres soient capables de le faire. Donc, il y a d'abord une formation des maîtres avant ça. Mais je pense qu'il y a un vrai effort à faire. Et je dirais beaucoup, beaucoup dans les petites classes sur la formation scientifique. Sinon, beaucoup d'enfants sont rebutés et disent les maths, et beaucoup de filles, les maths, c'est pas pour moi, la physique, c'est pas pour moi, et voilà, et c'est tout. Et c'est dommage parce qu'on est dans un monde technique, un monde où la science est très importante, et d'avoir, quel que soit ce qu'on fait après, mais d'avoir une formation scientifique, personnellement, je trouve que c'est très important.
Et puis très prometteur pour l'avenir. Alors, Colette Lévinier, vous savez que je suis par ailleurs directrice du réseau scolaire de l'Alliance, auquel vous êtes très attachée. Et je voulais vous annoncer quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que notre groupe scolaire des Pavillons sous bois a vu son lycée classé premier au plan national par le classement de France Télévisions. Selon les paramètres de l'éducation nationale, on en est évidemment très fiers. Et puis, je vous confiais hors antenne qu'on a beaucoup de scientifiques à Pavillons sous bois et beaucoup
bien.
De filles.
Oui.
Donc, on va faire une journée porte ouverte. Alors, je n'ose vous inviter puisque vous serez sûrement à l'autre bout de la planète la semaine prochaine, le 7 juin, mais qui sait, je vous invite quand même, Colette, le 7 juin à Pavillon, sous bois, à 10h30, pour une journée porte ouverte. Mais précisément, c'est important de se dire toutes ces filles qui ont choisi, puisque notre, la filière scientifique est très développée, notamment dans cet établissement, mais ailleurs aussi, puisque c'est la filière d'excellence, comment maintenir cette flamme et faire en sorte qu'elle s'autorise à s'engager dans cette direction-là.
Oui, alors, bravo pour le d'être classé premier, bravo, c'est une belle performance pour vous et pour toutes les équipes.
Surtout en Seine-Saint-Denis, on en est particulièrement fiers, mais c'est un établissement qui est de grande valeur depuis longtemps.
D'accord. Je crois que les filles, il faut les encourager si elles en ont le goût et les aptitudes à continuer à faire des sciences. Hein. Et malheureusement, la société, et c'est vrai dans tous les milieux, hein, c'est pas seulement vrai dans les milieux plus défavorisés, je dirais. La société leur envoie un signal qui est la science, c'est pas pour les filles. J'ai un petit exemple. Enfin bon, j'ai une petite fille, maintenant elle vient de faire sa bat mitzvah en Israël, mais elle était petite à l'époque et on jouait et elle était la gentille hôtesse de l'air et elle faisait un cadeau à mon mari, un cadeau à moi. Mon mari, il a eu un ordinateur. Moi, j'ai eu un livre de cuisine. Honnêtement, peut-être c'est pas bien, mais je passe pas mon temps dans la cuisine. Mais elle répondait à un signal que la société lui envoyait. Donc, ces signaux arrivent très, très tôt dans l'état d'esprit des enfants. Hein. Et je pense que c'est que par l'exemple, le modèle, l'encouragement qu'on peut amener ces jeunes filles à s'orienter vers les sciences.
Alors juste un mot sur le sexisme. J'entendais récemment un spécialiste hein, de la diversité au sein des entreprises qui disait que c'était un énorme problème en France et que c'était un peu l'éléphant dans le corridor dont on ne parlait pas. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic ?
Disons que sexisme est un mot général. Je pense qu'on met des images stéréotypées sur les femmes. Quand on les connaît pas, quand on les connaît, c'est pas vrai. Mais quand on va choisir une femme pour un poste de direction, on va dire, oh là là, elle aura pas le cran, elle tiendra pas le coup, est-ce qu'elle va arriver à travailler autant que ce qu'il faut? Eh ben, c'est pas vrai, hein. Moi, j'ai vu quand même dans des circonstances difficiles, les femmes beaucoup mieux tenir le coup que les hommes, hein. Donc, c'est des stéréotypes. Et ces stéréotypes, malheureusement, alors on peut dire que c'est du sexisme, collent à la peau des femmes. Et il faut beaucoup, beaucoup de temps pour les changer.
Donc, démentir en action, c'est le meilleur moyen.
Démentir en action et en exemple.
Mais oui, le début de votre carrière. Voilà. Merci en tout cas, Colette Lévinière, d'avoir été notre invitée. Je vous donne rendez-vous donc sur le site de RCJ ou sur le site de l'Alliance israélite universelle, AIU.org, où vous trouverez également tout ce qu'il faut pour nous rejoindre à la journée porte ouverte du 7 juin prochain au groupe scolaire des Pavillons sous bois. Si vous êtes intéressés. Merci à toutes et à tous. C'était Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es. Une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ilana Sicurel.